comme il ne se sentait pas d'attaque pour retourner directement au centre civique et affronter la pièce 430, il alla flâner un peu le long d'une des rues commerçantes d'Anaheim, passant la revue des comptoirs de McDonald's, des stations de lavage, des postes à essence, des pizzerias et autres merveilles. Aéré ainsi sur la voie publique, parmi toutes sortes de gens, il éprouvait un sentiment étrange concernant son identité. Ainsi qu'il l'avait expliqué au spécimen du Lions Club, sans son complet brouillé, il ressemblait à un toxico. Il causait comme un toxico. Ceux qui le croisaient le prenaient certainement pour un toxico et réagissaient en conséquence. Les autres junkies, tiens, se dit-il, je parle même des autres junkies, lui coulaient un regard en forme de paix, mon frère. Pas les straights. Il ruminait son idée. Tu te mets un habit d'évêque et une mitre, tu vas te balader comme ça et les gens commencent à se prosterner et à fléchir le genou, tout le cinéma. Ils essaient de baiser ton anneau et pourquoi pas ton cul et hop, te voilà évêque, pour ainsi dire. Qu'est-ce que l'identité? Où finit la comédie? Personne sait. Là où il perdait vraiment ses billes sur cette question de l'identité, c'était quand l'homme le harcelait. Quand les flics de la circulation ou ceux des patrouilles, enfin les flics de tout poil, venaient rouler tout doucement près de la bordure du trottoir pour l'intimider. Quand ils prenaient tout leur temps pour le scruter de leur regard impassible, métallique, insistant, acéré. En général, selon leur humeur, ils se garaient et lui faisaient signe d'approcher.
« Allez, fais voir tes papiers !» disait le flic, la main tendue.
Puis, tandis qu'Arctor Fred, Dieu sait qui, fouillait maladroitement dans sa poche, le flic lui gueulait au visage.
« T'as jamais été arrêté ?»
Parfois, histoire de varier, il ajoutait
« Auparavant !»
comme s'il allait le coller au trou séance tenante.
« Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?»
répondait-il d'habitude, quand il répondait. Un attroupement ne manquait pas de se former. La plupart des gens supposaient qu'il s'était fait pincer en train de vendre au coin de la rue. Il souriait, mal à l'aise, et attendait la suite. Cependant, quelques-uns, généralement des Noirs, des Chicanos, ou d'autres qui étaient manifestement des toxicos, semblaient en colère. Mais régulièrement, ceux-là ne tardaient pas à se rendre compte que leur colère se voyait, et ils s'empressaient de baisser le rideau. Parce que tout le monde sait bien que celui qui a l'air mal à l'aise ou hostile, peu importe, près d'un flic, a quelque chose à cacher. Les flics surtout le savent, selon la légende, et ils s'acharnent automatiquement sur ces gens-là. Mais cette fois, personne ne vint l'embêter. Les toxicos grouillaient aux alentours. Il était perdu dans la foule. « Que suis-je en réalité ? » s'interrogea-t-il. Il regretta un instant de ne pas disposer de son complet brouillé. Puis il se dit « Je pourrais continuer d'être un gribouillis, et les passants, les gens de la rue dans leur ensemble, applaudiraient. » « Et on applaudit le gribouillis, » songea-t-il, en repassant la séquence. Quelle façon d'atteindre le succès ! Ainsi, comment pourrait-il être sûr qu'il ne s'agissait pas d'un autre gribouillis au lieu du bon ? Peut-être n'était-ce pas Fred à l'intérieur, ou bien alors un autre Fred. Il n'en saurait jamais rien. Pas même quand Fred ouvrirait la bouche pour s'adresser à eux. Il ne serait jamais fixé. Et si c'était Al qui se faisait passer pour Fred. Le complet pouvait abriter n'importe qui. Il pouvait même être vide. Ou bien téléguidé depuis le bureau du shérif, au QG d'Orange County, et doté d'une voix enregistrée. Dans ce cas, le porteur du complet serait n'importe quel type qui se trouvait au bureau de Fred ce jour-là, et aurait ramassé le script et le micro, ou encore un mélange de toutes sortes de mecs assis derrière leur bureau. Mais après ce que j'ai dit à la fin, conclut-il, il n'y a plus à se poser de questions. Il ne s'agissait pas d'un type du bureau. À vrai dire, ce sont les types du bureau qui veulent me parler de cette histoire. Cette perspective ne l'enchantait pas. Aussi continua-t-il à retarder l'affrontement, aéré partout et nulle part. D'ailleurs, en Californie, l'endroit où tu vas, ça ne compte pas. Tu retrouves éternellement le même McDonald's, comme sur une bande qui tourne autour de toi pendant que tu crois te déplacer. Au bout du compte, quand tu as faim et que tu t'arrêtes au McDonald's pour manger un morceau, ils te vendent le même hamburger que la dernière fois et que la fois d'avant, et ainsi de suite, en remontant jusqu'à l'époque où tu n'étais pas né. Et en plus, des mauvaises langues, des menteurs évidemment, disent que leurs hamburgers sont faits de gésier de dinde. Selon leur enseigne, ils avaient vendu le même hamburger initial 50 milliards de fois. Il se demanda si c'était au même client. La Via Anaheim, Californie, n'était qu'une pub pour la Via Anaheim qui repassait éternellement. Rien ne changeait jamais. Ça ne faisait que s'élargir toujours davantage, comme une tache de néon. Et ce qui suintait de la sorte avait été fixé une bonne fois pour toutes longtemps auparavant, comme si l'usine automatique qui sortait ses objets en série était restée bloquée sur la position « marche ». Comment la terre devint plastique, songea-t-il en évoquant le conte de fées. Comment la mer devint sel. Un de ces jours, il sera obligatoire de vendre des hamburgers McDonald's, aussi bien que de les payer. On se les revendra les uns aux autres depuis nos salles à manger. Comme ça, on n'aura même plus besoin de sortir. Il jeta un coup d'œil à sa montre. 2h30. Temps d'appeler son contact. Par l'intermédiaire de Donna, s'il fallait la croire, il pouvait se procurer un millier de cachets de substances M coupées de méthédrine. Naturellement, il enverrait aussitôt le paquet au laboratoire du programme antidrogue pour analyse, puis destruction, ou tout autre usage qu'en faisaient les types de là-bas. Ils en prenaient peut-être eux-mêmes, d'après certaines rumeurs. Ou ils revendaient. Toutefois, en achetant à Donna, son but n'était pas de la faire coffrer. Il avait fréquemment traité avec elle sans rien tenter de semblable. Épingler le petit dealer local, la nana qui trouvait ça super de fourguer de la cam, non. Ça ne présentait aucun intérêt. La moitié de la brigade des stupes d'Orange County savait que Donna revendait. Il la reconnaissait dans la rue. Donna faisait parfois ses deals dans le parking du 7-Eleven, sous le nez de l'holocaméra plantée là pour les flics. Et on la laissait s'en tirer. En un sens, Donna pouvait faire n'importe quoi et devant n'importe qui, elle ne plongerait pas. Le but de l'opération, comme dans tous les deals précédents avec Donna, était de remonter jusqu'au dealer situé au-dessus d'elle dans la filière. Pour ça, les achats d'Arctor devenaient toujours plus importants. Au départ, il lui avait fait du plat, si l'expression convenait, pour qu'elle lui refile 10 tablettes, comme un service. Refuse pas ça à un copain, etc. Plus tard, en guise de récompense, il lui avait soutiré un sac de 100 tablettes, puis un de 300. Maintenant, avec un peu de peau, il obtiendrait 10 sacs, soit 1000 tablettes. Il finirait par acheter en quantité trop importante pour les moyens financiers de Donna. Elle n'arriverait plus à aligner assez de fric à son fournisseur pour acheminer la marchandise jusqu'à son point de la filière. Il pinaillerait. Elle insisterait pour qu'il allonge au moins une partie du fric. Il refuserait. Elle ne serait pas en mesure de réunir la somme. On perdrait du temps. Même pour un deal aussi négligeable, on s'énervait un peu. Tout le monde commencerait à s'impatienter. Son fournisseur, quel qu'il fût, se retrouverait avec la cam sur les bras et furieux de ne pas voir Donna se manifester. À la fin, si tout marchait bien, elle craquerait et leur dirait à son fournisseur comme à lui « Écoutez, il vaudrait mieux que vous traitiez ensemble. Je vous connais tous les deux, vous êtes réguliers, je réponds de chacun. Je vais fixer une heure et un lieu pour votre rencontre. Dorénavant, Bob, si tu dois acheter de telles quantités, tu arrangeras tes deals directement. » Parce que de toute évidence, avec des commandes de cet ordre, il devait revendre lui aussi. Il achetait presque au niveau d'un dealer. Donna supposerait qu'il revendait par sac de 100, avec bénéfice, vu qu'il demandait au moins 1000 cachets à chaque coup. Ainsi, il pourrait remonter la filière jusqu'au prochain fournisseur, tout en devenant lui-même un dealer comme Donna, et ainsi de suite, à mesure que l'importance de ses commandes augmenterait. Finalement, et c'est à cela que le projet devait son nom, il tomberait sur un type assez haut placé pour que ça vaille la peine de l'arrêter. Donc un type qui savait des choses, donc un type en contact direct avec le labo, ou avec les passeurs, lesquels connaîtraient la source, eux ou leurs fournisseurs. Et dans le cas de la substance M, contrairement à d'autres drogues, cette source était unique. Il s'agissait d'une drogue synthétique, pas organique, donc elle venait d'un labo. On pouvait en faire la synthèse, et du reste les fédéraux l'avaient déjà réalisé. Mais les constituants eux-mêmes dérivaient de composés dont la formule était presque aussi complexe. Théoriquement, n'importe qui pouvait se lancer dans la fabrication à condition de posséder 1) la formule et 2) les moyens techniques de monter un labo. En pratique, personne ne disposait des finances nécessaires. De plus, les bas prix pratiqués par les inventeurs et les fabricants rendaient toute concurrence impossible. La large diffusion du produit laissait supposer que même à partir d'une source unique, les relais devaient être extrêmement diversifiés. Sans doute une chaîne de laboratoires implantée dans certains secteurs clés, peut-être un à proximité de chaque zone de consommation intensive en Amérique du Nord et en Europe. Pourquoi aucune de ces officines n'avait été découverte, cela demeurait un mystère. Mais l'opinion qui circulait dans le public, comme à mots couverts dans les milieux officiels, était que l'agence SM, pour reprendre la désignation adoptée par les autorités, avait noyauté les organismes légaux, qu'ils soient régionaux ou fédéraux, à un échelon tel que celui qui découvrait quelque chose d'important cessait bientôt de s'en soucier ou cessait d'exister. Bien sûr, Donna n'était pas sa seule piste du moment. Il harcelait d'autres dealers pour obtenir des quantités toujours plus importantes. Mais parce qu'elle était sa nana, enfin, il nourrissait quelques espoirs dans cette direction, elle lui facilitait le travail. Il prenait aussi un plaisir personnel à lui rendre visite, à lui parler au téléphone, à sortir avec elle ou à la recevoir chez lui. En un sens, c'était la ligne de moindre résistance. Tant qu'à espionner quelqu'un, autant choisir un sujet qu'on fréquenterait de toute façon. Ça paraissait moins suspect et on se faisait moins chier. D'ailleurs, même si on ne voyait pas beaucoup la personne auparavant, le boulot vous y conduisait. Au bout du compte, tout ça revenait au même. Il pénétra dans une cabine téléphonique et joua de l'index.
« Ring, ring, ring !»«
Allô ?»
répondit Donna. Toutes les cabines du monde étaient sur table. Celles qui ne l'étaient pas, c'est qu'une équipe quelque part n'avait pas encore bougé. Un central recueillait électroniquement les conversations sur bobine, et tous les deux jours en moyenne, une bande parvenait à un officier qui pouvait surveiller de nombreux téléphones sans quitter son bureau. Il lui suffisait de consulter les mémoires à tambour, et la bande demandée se déroulait automatiquement en éliminant les temps morts. Il s'agissait la plupart du temps de bavardages sans importance. L'officier savait repérer les appels un peu louches. C'était son truc. On le payait pour ça. Certains s'en tiraient mieux que d'autres. Avec ce système, personne n'écoutait la conversation de Bob et Donna. La bande ne serait jouée que le lendemain au plus tôt. S'ils évoquaient des sujets manifestement illégaux, le préposé aux écoutes les repérerait immédiatement et leur empreinte vocale serait prise. Mais il suffisait d'enrober un peu la chose. Ça ne trompait généralement personne. Seulement le gouvernement devait tenir compte des considérations budgétaires. Il n'était pas rentable de se lancer dans tout un travail de prise d'empreintes et de repérage pour une simple transaction de routine. Donna et Arctor le savaient. « Comment ça marche pour toi ?» demanda-t-il.
« Pas mal. »
La voix chaude et un peu rauque marqua une pause. « Comment va ta tête aujourd'hui ?»«
Pas fort. C'est plutôt la déprime. »
Pause.
Le patron m'a fait chier cet après-midi à la boutique.
Donna travaillait au comptoir d'une petite parfumerie de Gateside Mall, à Costa Mesa. Tous les matins, elle prenait sa MG et partait au boulot.
Tu sais ce qu'il a dit ? Un client, un vieux mec genre grisonnant, nous a refait 10 sacs. Et ce salaud a dit que c'était ma faute et que je devais payer. Il les retient sur mon salaire. C'est moi qui l'ai dans le cul, excuse-moi, sans avoir rien fait.
Dis donc, enchaîna Arctor, tu peux pas m'avoir quelque chose ? Elle semblait faire la gueule à présent, comme si elle ne voulait pas. C'était bidon.
Combien ? Combien tu veux ? Ça dépend.
10. Selon leur convention, 1 signifiait 100 cachets. Il en voulait donc 1000. Entre revendeurs, quand on devait négocier en utilisant les moyens de communication publique, un bon moyen de se tirer d'affaire consistait à masquer une grosse transaction sous une petite. De cette façon, on pouvait conclure des marchés à l'infini sans éveiller l'intérêt des autorités. Si la brigade des stupéfiants avait décidé de suivre toutes les pistes, elle aurait passé chaque heure de la journée à opérer des descentes dans tous les appartements de la ville, et pour de piètres résultats.
« 10 »,
murmura Donna avec une pointe d'irritation. « Je presse salement, » dit-il. Il s'exprimait comme un type accroché plutôt que comme un fourgue. « Je te paierai ça plus tard. » Quand j'aurai touché.
Ça va,
fit-elle d'un ton neutre.
Je te les file. 10.
Elle se demandait sans doute s'il revendait. Oui, ça devait être le cas.
10, pourquoi pas? Disons dans 3 jours?
Pas plus tôt.
Ils sont assez.
D'accord, coupa-t-il.
Je passerai.
À quelle heure? Elle se livra un petit calcul.
Vers les 8h du soir. Dis, il faut que je te montre un bouquin. Quelqu'un l'a oublié à la boutique. Super. C'est sur les loups. Tu sais ce qu'ils font, les loups? Les mâles. Quand un mâle a vaincu son adversaire, il le tue pas, il lui pisse dessus. Je blague pas, hein? Il pisse sur le vaincu, et puis il se tire. Terminé. Le territoire, c'est surtout pour ça qu'ils se battent. Et pour le droit de baiser, tu saisis?
J'ai pissé sur des gens il y a pas longtemps.
Vrai? Explique.
C'est une image.
Alors t'as pas fait ça pour de bon?
En fait, je l'aurais dit... Il s'interrompit. Tu causes trop, va falloir ramer, merde. Cette bande de mecs, reprit-il, un peu comme des anges, tu vois, qui traînent du côté de Foster's Freeze. Je passe par là, et ils sortent une vanne. Alors je me retourne, et je leur balance quelque chose du genre... La suite ne venait pas.
Tu peux me dire,
fit Donna.
Même si c'est dégueu, faut leur causer comme ça aux motards. Sinon, ils comprennent pas.
Je leur ai sorti que j'aimais mieux chevaucher chaude fille que de chopper.
Je saisis pas.
Eh bien, un chopper, c'est leur machine.
Ah, d'accord, j'y suis. Waf, waf.
Bon, je t'attends chez moi comme convenu. Salut. Il s'apprêta à raccrocher.
Je peux t'apporter le bouquin pour te faire voir. C'est de Conrad Lorenz. Sur le topo de couvrante, ils disent que c'était la plus grosse autorité mondiale sur les loups. Encore un truc. Les copains avec qui t'habites sont passés à la boutique aujourd'hui. Ernie, je sais plus quoi, et l'autre mec, Baris. Ils te cherchaient, au cas où tu serais...
Qu'est-ce qu'ils voulaient?
Ton céphalochromoscope. Celui qui t'a coûté 900 tickets et que tu joues tout le temps chez toi. Ernie et Baris causaient de ça. Ils ont essayé de s'en servir aujourd'hui, et ça voulait pas marcher. Pas de couleur et pas de céphatrace. Rien du tout. Alors ils ont pris les outils de Baris et démonté la plaque de base.
Ils s'emmerdent pas, fulmina-t-il.
Et ils disent que quelqu'un l'a trafiqué. C'est du sabotage. Fils coupés et ainsi de suite, tu sais, des machins louches. Des circuits bousillés, des pièces cassées. Baris a dit qu'il essaierait de...
Je file tout droit à la maison. Arctor raccrocha. Mon seul truc de valeur, songea-t-il amèrement. Et ce con de Baris qui va le bricoler. Mais je ne peux pas rentrer de suite. Il faut que j'aille à New Path voir ce qui se prépare. C'était sa mission. Il ne pouvait pas y couper.